France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'écouter France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller au grand rendez-vous annuel avec les plus grands, les plus beaux, les plus célèbres, les plus authentiques manèges. La Foire du Trône est de retour dès le 5 avril prochain. Et comme chaque année, les bénéfices de la soirée d'ouverture sont au profit d'une association. Alors cette année, ce sont d'ailleurs deux associations très liées dans un même combat, on va en parler bien sûr, les associations Adicare et Hamster. Et pour en savoir plus sur cette soirée, sur ces associations, sur la nouvelle édition de la Foire du Trône, nous sommes avec Pascal Leprince, président de l'association Hamster, et Karine Mailleux, la présidente de l'association des forains de la Foire du Trône. Eh bien, bonjour à tous les deux, monsieur le président, madame la présidente. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. J'ajoute, monsieur Leprince, professeur Leprince, que vous êtes également chef du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie du groupe hospitalier, Pitié-la-Salpêtrière. Ouf! Tout ça, c'est dit.
C'est bien ça.
Alors, que nous réserve cette première soirée d'inauguration? Quel est le principe? Quelles sont les missions de ces deux associations, Adicare et Hamster? Quelles sont les nouveautés qui nous attendent à la Foire du Trône du 5 avril au 2 juin? Pelouse de rayé comme tous les ans à Paris dans le 12e, on veut tout savoir. Je vais rappeler que la Foire du Trône est installée depuis 1965, Pelouse de Reuilly. C'est la plus grande fête foraine de France. Et depuis quelques années, l'association des forains a donc décidé de reverser les bénéfices de la première soirée à une ou deux associations. On va dans un instant évidemment s'intéresser au rôle de ces associations. Je voulais tout d'abord parler à la présidente de l'association des forains. Ça fait de nombreuses années maintenant que la première soirée d'inauguration est au bénéfice de plusieurs associations ou d'une, hein, c'est cela?
Tous les ans, on prend une nouvelle association justement pour aider les personnes malades.
Et ça rapporte beaucoup, hein, faut le dire, faut vraiment y aller. Alors, on va vous expliquer comment ça se passe. Donc c'est le 5 avril prochain. Comment ça se passe, Karine?
Alors, on peut prendre les passes sur Internet, Facebook. Ouais. Et donc, directement, vous pouvez acheter vos passes.
Alors, on achète un pass.
Alors, un pass à 25 euros.
Voilà.
Et moins de 10 ans, c'est 15 euros.
D'accord. Et à quoi sert ce pass?
Alors, ce pass sert à rentrer gratuitement. Pas gratuitement, mais...
On rentre dans la foire.
Vous rentrez et vous pouvez participer à tous les manèges.
Plusieurs fois?
Plusieurs fois, vous faites un tour, après il faut refaire la queue automatiquement pour faire un deuxième tour.
C'est à partir de 18h, je crois, jusqu'à 23h30.
23h30,
d'accord.
C'est ça.
Bon, une chose intéressante, c'est qu'on peut effectivement acheter déjà, d'ores et déjà, son pass sur Internet, mais est-ce qu'on peut l'acheter lorsque l'on sera le soir du 5 avril,
sur place? Vous pouvez aussi l'acheter sur place.
D'accord.
C'est un peu plus cher.
Ah, d'accord. Bon, très bien. Vaut mieux par Internet avant.
Voilà.
Combien il y a d'attractions cette année, Karine, à la Foire du Trône, à peu près?
On est à peu près 300.
C'est une moyenne habituelle, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est toujours à peu près pareil.
La structure est toujours la même. Est-ce que je peux faire... Oui, alors ça, je l'ai dit, je peux faire 5 tours de Tagada, 3 Skyfall d'affilée, ça, il n'y a pas de problème.
Finalement, d'affilée, vous êtes obligé...
Oui, on fait l'accueil. Voilà. Finalement, ce soir-là, l'argent récolté, ce sera en plus dans les lieux de restauration.
Oui.
Oui, on est bien d'accord. Oui, oui. Mais les bénéfices des lieux de restauration font partie de la somme versée à l'association.
Exactement.
Tous les forains sont derrière ce mouvement.
C'est une organisation ensemble avec tous les forains.
D'accord. Vous décidez ensemble de l'association chaque année? Ça doit être difficile parce que tout le monde veut bénéficier
bien sûr,
de cette soirée.
Mais bon, après...
Vous vous réunissez
Voilà, c'est en groupe. On est obligé de décider une association tous les ans.
Jean-Luc Reichmann et Chris Marquez sont les parrains cette année.
Tout à fait.
Est-ce qu'on aura l'occasion de les croiser si on va
oui,
le 5 avril?
Oui, tout à fait.
Et en général, si vous avez en mémoire, hein, évidemment, combien ça rapporte aux associations? Vous avez une idée, par exemple, de l'an dernier?
90 000.
En moyenne, 90
à peu
000
près,
euros.
Oui. L'année dernière, il y a eu pour donc Raphaël, c'était l'association Raphaël. Ils ont touché un chèque de 90 000.
Alors justement, cet argent, ce bénéfice de cette soirée, à quoi servira-t-il cette année? On va en parler dans un instant avec le président de l'association Hamster, le professeur Pascal Leprince. À tout de suite.
France Bleu Paris. France Bleu.
thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
With or Without You, You Too, sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Un peu d'histoire, c'est en 957 que tout a commencé. Les moines de l'abbaye Saint-Antoine, à Paris bien sûr, obtiennent le droit de vendre du pain d'épices pendant la semaine sainte en souvenir de leur saint patron, vers l'emplacement de l'actuelle place de la Nation, voyez où je veux dire, à l'époque appelée place du trône, le long de l'avenue du trône et du cours de Vincennes. Bah voilà, c'est l'ancêtre de la foire du trône. On en parle aujourd'hui et comme chaque année, je rappelle que la soirée d'inauguration, le 5 avril, bon, la foire du trône a déménagé, tout le monde le sait, la première soirée donc étant au profit d'associations, on va t'intéresser à celle choisie cette année. Alors, professeur Pascal Leprince, je rappelle que vous êtes chef du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes le président de l'association Hamster, amélioration des méthodes de surveillance et des techniques en chirurgie cardiaque et réanimation, comme ça c'est dit, créé par le professeur Cabrol, me semble-t-il, il y a de nombreuses années, qui, rappelons-le, est celui qui a réalisé la première transplantation cardiaque, c'était en 68, avril 68. Et alors, la soirée d'inauguration est également au bénéfice de l'association Adicare. Adicare, c'est expliquez-moi Adicare d'ailleurs, parce que Hamster, je sais, Adicare un petit peu moins.
Bah, les deux sont des associations créées par Christian Cabrol, quasiment dans les mêmes années. Il y en a une, Hamster, comme vous venez de dire, qui est vraiment attachée au service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière.
Oui.
Et Adicare, elle est juste de l'autre côté de la porte. Elle est un peu plus large, un peu plus généraliste. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas directement dépendante ou directement attachée au service de chirurgie cardiaque. Mais bien entendu, il y a une relation extrêmement étroite parce que là encore, elle a été créée par Christian Cabrol. Mm-hmm. Et c'est là que jusqu'à encore 2 ans et demi, Christian Cabrol avait son bureau.
D'accord. Donc, je rectifie, c'est Adicare et non pas Adicare.
Oui, nous on le fait en français, on le dit Adicare. Oui.
Alors, Hamster crée quoi? Qu'est-ce que vous faites à Hamster? Puisqu'on va parler des deux. Hamster, je crois que vous créez tout d'abord des postes de chercheurs.
Mmh. En fait, il y a 3 missions. Mmh. Hamster, une mission de recherche. C'est-à-dire que via Hamster, on va subventionner de la recherche, sponsoriser de la recherche. Alors c'est un peu plus compliqué maintenant en France parce que les règles ont un peu changé. Donc on a un peu moins de facilité de faire de la recherche via ces associations-là parce qu'il faut être labellisé, il faut avoir un certain nombre de choses que Hamster n'a pas forcément parce qu'il faut du temps pour s'occuper de tout ça. Mm-hmm. Mais on continue quand même à avoir une partie de la recherche qui est faite par Hamster. Par exemple, on a des attachés de recherche clinique qui sont payés par Hamster,
financé
par l'association. Parce que dans un service de chirurgie cardiaque, une chose extrêmement importante, c'est la qualité. La qualité, elle se fait en analysant en permanence les données de ce que l'on fait. Et ça, on ne peut pas demander en permanence aux médecins de remplir des bases de données sur l'ordinateur, etc. Donc on a besoin de personnel qui s'occupe de ça et qui est financé par Hamster. Et ça nous permet de savoir en permanence où on en est en termes de qualité. Est-ce qu'on fait mieux qu'avant? Est-ce qu'on fait moins bien? Est-ce qu'il faut resserrer un peu les boulons? Est-ce qu'on a un peu dérapé quelque part? Ça, c'est extrêmement important parce que si on n'analyse pas cette qualité, demain, on risque de faire moins bien. C'est un peu comme l'aviation civile. Hein. S'il n'y avait pas une analyse permanente de la qualité, il y aurait beaucoup plus de crash d'avion. C'est la même chose au bloc opératoire.
Ces analyses, elles seront réalisées par des personnes. Donc justement, si j'aide Hamster, qui seront financées par l'association.
Exactement. On aide la qualité. Alors ça, c'est un des rôles de Hamster, la partie recherche. Et donc maintenant, compte tenu des modifications des règles, la recherche est essentiellement ça. Il y a à côté de ça l'enseignement. Mmh. Et donc via Hamster, on organise un certain nombre de congrès, de réunions scientifiques.
Essentiellement
pour des chirurgiens cardiaques, des cardiologues, des réanimateurs qui gravitent autour quand même de la cardiologie.
Oui, d'accord.
C'est très très orienté forcément cardiologie. On a depuis quelques temps mis en place ce qu'on appelle des web symposiums ou des webinars.
C'est-à-dire
qu'on organise tous les 3-4 mois une session d'une heure et demie avec 3 ou 4 interlocuteurs qui n'ont plus besoin de se déplacer, tout se fait par Internet, où on va traiter un sujet. Comme ce qu'on fait là aujourd'hui d'ailleurs. Mmh, mmh. Et donc nos collègues, à la fois parfois français, mais on peut le faire aussi tout à fait à l'international, nos collègues se connectent, on leur envoie bien sûr de la pub pour cette connexion, ils se connectent et puis ils suivent la discussion entre guillemets d'experts pendant une heure et demie sur un sujet donné. On a fait la chirurgie cardiaque mini-invasive, on a fait récemment les traitements d'absorption pendant la circulation extracorporelle, donc des choses plutôt pointues qui vont intéresser une partie de nos collègues français ou de nos collègues internationaux.
Transmission d'informations très importante.
Voilà. Et très facile maintenant avec les moyens,
avec
beaucoup
Internet.
Plus, on n'a pas besoin de se déplacer.
Vous l'avez dit, ces deux institutions, ces deux associations sont bien sûr centralisées à l'Institut de cardiologie de la Salpêtrière, qui, oui, rappelons-le, a été créé notamment grâce au professeur Cabrol,
oui,
également.
C'est lui qui a fondé le service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière. Avant, puisque vous avez fait
je voulais savoir ce qui se passait avant. Oui.
Un peu d'histoire quand même.
Ouais,
la Salpêtrière, plus de 400 ans,
oui,
quand
sûr.
Même, rappelons ça. Ouais, la Pitié, ouais, une centaine d'années.
Ouais.
Et Pitié-Salpêtrière, c'est déjà à l'époque la conjugaison de Pitié et de Salpêtrière. Christian Cabrol fonde le service dans les années 60. Avant, c'était un service de chirurgie thoracique essentiellement. Christian Cabrol, dans les années 60, part aux États-Unis. Quand même, faut rappeler ça à l'époque. C'est quelque chose de partir aux États-Unis. On partait pas comme aujourd'hui. On fait un aller-retour dans la journée. Il part avec Madame Cabrol, celle qu'on appelait Madame Cabrol, qui est Annick Cabrol, qui était son épouse anesthésiste à l'époque. Ils partent tous les deux aux États-Unis. Ils vont se former chez Lille High, à Minneapolis, pour apprendre la circulation extracorporelle, qui est quelque chose d'extrêmement nouveau. Ça se fait, c'est pas encore dans le monde, ça. Ils apprennent, ils rencontrent à Minneapolis, Lower et Shumway, qui sont deux chirurgiens qui travaillent beaucoup sur la transplantation. Ils rencontrent aussi Chris Barnard, un autre Chris, mais Chris Barnard qui était d'Afrique du Sud, de la ville du Cap, qui fera la première transplantation cardiaque du monde, dans le monde, Chris Barnard, en 67.
La transplantation de quoi?
Cardiaque, d'un cœur adulte, d'un cœur d'homme, d'un cœur d'être humain.
Je pensais que c'était Cabrol, moi.
Non, Cabrol, c'est la première en Europe.
Ah, d'accord.
Le premier dans le monde, pour des raisons de régulation.
D'accord, d'accord.
C'est, en fait, l'honneur aurait dû revenir à Lower et Shumway, qui étaient vraiment les deux chirurgiens qui ont travaillé sur le sujet. Le problème, c'est qu'ils étaient aux États-Unis, et c'était pas simple non plus aux États-Unis. La notion de donneur d'organes, de mort encéphalique, c'était pas simple. Donc finalement, c'est Chris Barnard qui coiffe tout le monde au poteau, si je peux dire, ouais. Et qui fait la première dans le monde, après Lower et Shumway, et Christian Cabrol fait la première en Europe.
D'accord.
Donc ils se rencontrent tous ces gens-là, Minneapolis, puis ensuite Stanford. Il continue à avoir de l'amitié. Ensuite, Christian Cabrol le revient. Finalement, on lui crée quelques lits de chirurgie cardiaque. C'est quelques lits à l'époque. Et à partir de là, il crée le service de chirurgie cardiaque.
D'accord.
Et de transplantation cardiaque derrière. Alors, il y a eu même de la transplantation cardiaque, pulmonaire, cœur et poumon. Et maintenant, c'est vraiment concentré purement sur le cœur parce qu'on a d'autres collègues qui font très bien le poumon et le cœur-poumon en région parisienne.
Quand on passe boulevard de l'Hôpital, donc là, du côté de la Salpêtrière, il y a cet institut qui est là de cardiologie installé depuis tant d'années. C'est là où se font les recherches les plus poussées en termes de, justement, de cardiologie, de maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on est à un rang très élevé, mondial, pourquoi pas, en termes de recherche?
Alors la recherche, ça va avec la clinique pour moi. La recherche sur la molécule, on a des gens qui font ça très bien à la Pitié-Salpêtrière. On est un peu loin, nous, de cette recherche-là. On est quand même des manuels. Hein. Donc,
oui, c'est vrai.
Donc nous, c'est vraiment de la recherche clinique, même si on touche à des technologies qui sont extrêmement innovantes. Et donc oui, on est dans certains domaines de la chirurgie cardiaque et de la réanimation en chirurgie cardiaque, on est à la pointe de ce qui peut se faire dans le monde. C'est-à-dire, par exemple, en transplantation, on est dans les 3-4 premiers services au monde. L'utilisation des petits systèmes d'assistance circulatoire qu'on appelle l'ECMO, on est les premiers au monde en termes de chiffres. L'assistance circulatoire, on est parmi les premiers en Europe. Donc oui, on est quand même parmi les premiers et les gens quand même regardent ce qui se passe à la Pitié-Salpêtrière, et un peu ailleurs dans le monde, mais aussi à la Pitié-Salpêtrière pour essayer de prédire un peu ce qui va se passer en chirurgie cardiaque dans les années qui viennent.
Oh, juste une question toute bête, on peut se la poser bien sûr tous. C'est à quel rythme les transplantations cardiaques à la Salpêtrière?
La Salpêtrière, c'est à peu près 90 transplantations cardiaques par an. En France, c'est 470 par an. Donc ça représente à peu près 20-25% des transplantations.
En France, il y en a une par an. Une par jour.
Une par jour, oui.
Et même un peu
un
plus.
Un peu plus qu'un jour, 1,35.
Oui, non, ça se fait à la chaîne, presque.
C'est ça qui est extraordinaire. Non. C'est que même si c'est devenu quelque chose d'un peu routinier de faire une transplantation cardiaque, pour 80% en tout cas des transplantations cardiaques, il y a quelques transplantations qui restent compliquées quand même, mais c'est jamais de la routine en même temps, parce qu'il y a toujours un petit côté mythique, un cœur qui redémarre, humainement c'est quand même extraordinaire.
Ouais.
Et imaginez, on va prendre un cœur, et même un autre organe, dans un être humain, et on va le transplanter dans un autre être humain. C'est juste un moment d'humanité. Indépendamment de toute la technique de la médecine, il faut juste penser à ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, la transplantation, conceptuellement. Après, oui, il y a la technologie, il y a la chirurgie, il y a toute la médecine, les médicaments et les suppresseurs, mais c'est juste un grand moment d'humanité quand même.
C'est presque magique, effectivement. Oui. Faut pas l'oublier, effectivement. Voilà, vous savez pourquoi on va tous se retrouver le 5 avril, dès 18h jusqu'à 23h30 à la Foire du Trône. Certes, on va profiter des manèges, mais d'ailleurs lesquels? Tiens, on va en parler avec Karine. Quelles sont les nouveautés qui, cette année encore, vont nous faire vivre de bons moments d'émotion forts, des émotions fortes, des rires également, puisqu'on va à la Foire du Trône pour s'amuser? Et puisque l'on s'intéresse à ces deux associations de recherche sur les différentes maladies cardiaques, cardiovasculaires, les transplantations, ben on va aussi s'intéresser à l'évolution de la santé de notre cœur, de nos cœurs, avec nos invités qu'on retrouve dans un instant. Ce sera tout de suite après, comme chaque jour, Accès Privé. Alors aujourd'hui, notre reporter, Héloïse Erignac, nous fait découvrir une usine historique située à Montrouge. Et sans doute avez-vous chez vous ce qu'on y fabrique depuis 3 générations, et vous en saurez plus après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras, ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul défi.
définitivement balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc, définitivement un peu calme, un peu blanc, encore un peu vivant, sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir. L'amour s'éteint, il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, balayé par le vent.
Définitivement, Marc Lavoine sur France Bleu Paris. On retourne à la Foire de Trône dans un instant en faisant un petit détour par Montrouge. Vous comprendrez juste après ça.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu. Dans Paris Express, avec Déborah Grunewald, France Bleu Paris taquine les stars.
Chut, tout le monde se tait, enregistrement top, c'est parti.
Bonjour, c'est Vanessa Paradis.
Chut, enregistre.
On se retrouve toute la semaine sur France Bleu. C'était ça?
Ouais, c'était ça, c'était même mieux que je l'imaginais. Merci.
Vanessa Paradis avec Déborah Grunewald dans Paris Express sur France Bleu Paris toute la semaine à 6h55, 11h55 et 16h35.
Lehman Studio présente. L'artiste aux 50 ans de carrière, Gilbert Montagnier, se produira pour la première fois à Aulnay-sous-Bois pour un grand dîner-concert organisé le samedi 30 mars au gymnase Pierre Scoï. Plus que quelques jours pour réserver vos places. Rendez-vous dès maintenant sur www.diner-spectacle.fr ou par téléphone au 01 58 31 01 18.
Mémoire, attention, concentration, sommeil, que révèlent les sciences du cerveau aujourd'hui? France Inter et La Massif vous proposent un cycle de conférences autour du cerveau animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache.
Prochain rendez-vous le jeudi 18 avril à 20h pour découvrir les mystères du sommeil.
Une conférence à vivre en direct dans les salles de cinéma partout en France. Informations et réservations sur franceinter.fr. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec La Massif.
Massif, essentiel pour moi.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Midi 33 sur France Bleu Paris, c'est l'heure d'accès privé. Il parfume peut-être votre intérieur depuis des décennies. C'est un petit bout de papier qu'on tortillonne avant de le faire brûler. Il porte le nom exotique de papier d'Arménie, bien sûr. Et pourtant, il est exclusivement fabriqué en région parisienne. Héloïse Erignac a visité son usine historique dans un petit bâtiment en briques de Montrouge, en compagnie de Mireille Schwartz, arrière-petite-fille du fondateur.
Donc là, on va au sous-sol. où est gardé toutes les caisses de bain-joint avec lesquelles nous faisons le papier d'Arménie. Ce bain-joint qui vient du Laos, dans des régions montagneuses, très humides, et qui arrive directement ici au papier d'Arménie. Le bain-joint, c'est une résine d'un arbre qui s'appelle aliboufier, de l'espèce des styrax. C'est un peu comme, vous savez, le pain. On saigne le pain et la résine s'en va, coule. Donc ben, c'est pareil, on fait la même chose pour l'aliboufier. Vous voyez ici, c'est Philippe qui est mon chef de produit. C'est lui qui fait tous les mélanges des résines et des parfums.
C'est l'alchimiste.
C'est l'alchimiste, exactement. Donc là, vous voyez, ce sont les caisses de bain-joint qui nous arrivent. Vous voyez, ce sont des granulés comme ça. Ça, c'est magnifique. Ça sent un petit peu la vanille quand on frotte comme ça. Mais ici, vous avez beaucoup d'odeur. Donc cette résine, vous voyez tous ces bidons, c'est de l'alcool. Hein. Donc cette résine, elle est... Alors on ne va pas pouvoir y entrer.
C'est un coffre-fort ici?
Oui, c'est à peu près ça. Donc, c'est surtout ce qu'on appelle une zone à texte, où on n'a pas le droit de rentrer quand on a ces appareils, enfin des tâches. Et il n'y a que Philippe qui y va avec des chaussures spéciales. C'est une peinture spéciale, des lumières spéciales, pour pas qu'il y ait d'explosion. Qui n'est pas d'étincelle. Donc vous voyez des grandes cuves, là, comme ça. C'est là où est mélangé l'alcool avec les résines. Donc Philippe, tous les matins, remue l'alcool pour que ça se dissolve bien.
Donc je n'entrerai pas.
Non,
on n'entre pas.
Les parfums et l'alcool, ça macère 2-3 mois, 3-4 mois même, quand on peut. Hein.
C'est long de faire du papier d'Arménie?
C'est très long. Il faut 6 mois, à partir du moment où on a le bain-joint, jusqu'à la vente. Il faut toujours faire vieillir... Enfin, vous allez voir, quand on va tremper les papiers, ces papiers, ils vieillissent.
Pourquoi on l'appelle papier d'Arménie?
Ben parce que c'est... Enfin, papier, c'est du papier hein, qu'on fait brûler. Et Arménie, c'est parce que M. Ponceau, qui était l'associé de mon arrière-grand-père, avait été en Arménie, avait vu que les gens faisaient brûler la résine de bain-joint pour désinfecter les maisons. Donc il était en voyage là-bas, il a trouvé ça formidable, il l'a ramené, et avec mon arrière-grand-père, ils ont fait le papier d'Arménie en souvenir.
Le papier d'Arménie, il a toujours été fabriqué ici?
Papier d'Arménie, pratiquement oui, depuis... on est la plus vieille entreprise de Montrouge.
On a eu, 130 ans?
130 ans, oui. Oh, même plus maintenant, 1885. Alors ça fait un petit peu plus. Hein. Et moi, ça fait déjà 24 ans que je suis là.
Les petits carnets qu'on trouve sur les comptoirs des pharmacies et voilà, des magasins bio, exactement. Ils viennent tous d'ici.
Ils viennent tous d'ici. Ah oui, il n'y a que cet endroit où on fabrique le papier d'Arménie.
Évidemment, musique aussi, de l'alchimie, du savoir-faire, de la patience. Nous poursuivrons demain la découverte de l'usine du papier d'Arménie de Montrouge dans Accès Privé avec Héloïse Erignac. Une visite à réécouter, bien sûr, et à retrouver en images sur francebleuparis.fr.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Allez, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, en fait, la Foire du Trône, et plus précisément la soirée d'inauguration, le 5 avril, de la plus grande, de la plus célèbre fête foraine, bien sûr. Une soirée au bénéfice de deux associations cette année, Adicar et Hamster. Nous sommes avec le professeur Pascal Leprince, président de l'association Hamster, et Karine Mailleux, présidente de l'association des forains de la Foire du Trône. Karine, quel est le rôle d'ailleurs de l'association des forains? Vous avez créé cette association, pourquoi? Vous êtes pour vous mettre tous d'accord?
On est plusieurs, on a un comité où on se retrouve. Alors pour la publicité.
Ah oui, d'accord, pour faire
la
passer
radio,
la com.
Vous voyez, la com, tout c'est... ce qui est com. Et il y a plein de choses.
Ça marche bien la Foire du Trône tous les ans, c'est un vrai rendez-vous,
oui.
Qui pleuve, qui vente.
On a un peu plus de 3 millions de personnes.
Chaque année.
Chaque année.
Et est-ce que c'est chaque année les mêmes forains qui viennent ou régulièrement? Est-ce qu'il y a un réassort?
Des fois, il y a quelques changements. Mm-hmm. Cette année, on a une nouveauté.
Ah, alors allons-y.
Alors, le manège La Pieuvre.
La Pieuvre.
C'est un manège familial. Mm-hmm. Petit, grand, tout le monde peut monter. On a aussi le bateau pirate pour enfants.
Ah, bien, parce que le bateau pirate pour adultes, on le connaît. On
y pour est... enfants, maintenant.
Ah, c'est bien, pour
c'est
enfants.
C'est bien, il faut changer aussi. Il n'y a pas que les grands, il y a les petits aussi.
Bon, rassurez-moi, il y a toujours deux montagnes russes. Oui. Avec plusieurs loopings.
Tout à fait.
Il y a
le jet.
Le jet, ça c'est quoi?
C'est un grand 8.
Oui, tout simplement.
Tout simplement.
Est-ce qu'il y a toujours deux grandes roues? Rassurez-moi.
Il y a deux grandes roues, oui.
Des trains fantômes?
Il y a trois trains fantômes.
Des chaises volantes, parce que ça, si ça se trouve, c'est le plus ancien de ces manèges, non?
On va dire le plus ancien, c'est un manège de chaux de bois.
Ah oui, bien sûr.
Bon, qu'on a pu actuellement sur la Foire du Trône.
Et puis il y a Tagada.
Le Tagada est toujours fidèle.
Alors il y avait avant le mur de la mort où il y avait cette moto qui tournait, vous savez, qui tournait. Mais il y a toujours un manège où on peut rentrer et qui tourne et où on est plaqué contre...
Alors le rotor.
Ah le rotor, il y a toujours le rotor.
Le rotor, il y a l'impression que ça fait partie d'un des plus anciens manèges.
Professeur Leprince, j'ai l'impression que les manèges, vous y connaissez. Alors est-ce que vous avez testé cette année déjà en avant-première ou est-ce que ça fait partie d'un souvenir d'enfant, d'adolescent?
Non, malheureusement, j'ai ni la chance ni réellement le temps de tester en avant-première, mais ça fait partie des souvenirs d'enfance, tous ces manèges. Quoi. Dès qu'on en parle, on se rappelle les sensations qu'on a eues en allant dans les foires, dans les fêtes foraines. Ouais. C'est à la fois populaire et à la fois extrêmement extraordinaire, la fête foraine. On y va, d'un seul coup, on sort du monde réel un petit peu. Et on s'éclate. Quoi.
Et on vit des sensations qu'on ne connaît pas.
Et les enfants, quand on est gamin, c'est extraordinaire.
Bon, alors évidemment, vous, Karine, vous ne tenez pas un manège, mais on va dire qu'on pourra vous retrouver sur l'allée centrale et vous, chez vous, on déguste. Alors, allez-y, donnez-moi le menu.
Du bon nougat, des croustillons, des churros.
Ouais, vas-y, continue.
De la guimauve.
Ouais, barbe à papa.
Barbe à papa.
D'accord. Et ça s'appelle comment?
Chez Karine.
Bah, tout simplement. Au bout de l'allée centrale, c'est facile à trouver, vous êtes là tous les ans.
Exactement, ça fait je suis au rond-point central.
Combien d'années que vous êtes sur la Foire du Trône?
Oh là là, moi j'ai 9 générations.
9 générations de forains?
Oui.
Ah oui, évidemment.
Mon arrière-arrière-grand-père était déjà aux colonnes.
Ça veut dire quoi aux colonnes?
Alors, à la Nation.
À place non,
place
c'est
de
vrai,
la
il
nation.
A connu place. Bah oui, parce que c'était je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 65, je crois.
Exact.
D'accord. Alors, en termes de sécurité, pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent aller à la Foire du Trône, il y a parfois des petites bagarres, Max. Est-ce qu'il y a, comme chaque année, des entrées contrôlées à différents
points? Exactement.
D'accord, ça c'est conservé.
Toutes les entrées sont contrôlées. Mmh. Et vraiment, maintenant, on a de moins en moins de problèmes. Hein. C'est vraiment très structuré.
Très bien. Qu'est-ce qui est le plus consommé sur votre stand en termes de nourriture? J'ai faim, il est 12h41.
Les beignets,
ah ouais.
Croustillons, parce que ça reste quand même des choses familiales.
Ouais.
Donc les gens viennent et tout le monde peut déguster les croustillons, les choses.
C'est jusqu'au 2 juin cette année, à partir du 5 avril, pelouse de Reuilly, comme tous les ans, dans le 12e arrondissement, juste à côté du bois de Vincennes. La Foire du Trône vous attend donc, je rappelle que ce soir-là, le soir du 5 avril, c'est au bénéfice de deux associations, ADICAR, l'Association pour le développement des innovations en cardiologie, recherche et enseignement, et AMSTER, amélioration des méthodes de surveillance des techniques en chirurgie cardiaque et réanimation. Et donc, vous l'avez compris, il est question de cœur. Et comme nous sommes avec le professeur Leprince, chef du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et président de la SOS, bon, on va lui demander quelques conseils pour garder un cœur en pleine forme juste après ça.
France Bleu Paris.
France Bleu. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Special when I call, hate will make you cautious.
are cold. We rise and we fall. Dancing in the moonlight. Don't we have it all?
Reality Lost Frequencies sur France Bleu Paris. On retourne à la Foire du Trône, on s'intéresse au cœur juste après ça.
France Bleu.
Bonjour tout le monde.
Sur France Bleu Paris avec Franck Duret, les bouchons parfois, ça a du bon.
Le restaurant du jour s'appelle Fumée, un restaurant dans le 8e arrondissement à Paris. Gagnez votre repas pour deux personnes et vous choisirez entre une entrecôte fumée, un cabillaud mariné fumé. C'est le restaurant du jour et ça vaut le détour.
Ça vaut le détour sur France Bleu Paris, 16h-19h.
France Bleu Paris.
C'est la fête familiale par excellence, c'est le divertissement pour toutes les générations, c'est l'endroit où l'on a tous des souvenirs d'enfance, la fête foraine. Heureusement, revient régulièrement la Foire du Trône, c'est à partir du 5 avril cette année. On va encore pouvoir en profiter bien sûr et nous sommes avec, je le rappelle, Karine Mailleux qui est la présidente de l'association des forains de la Foire du Trône. Et la soirée d'inauguration le 5 avril est au bénéfice de deux associations, Adhicar et Hamster. Nous sommes avec le président de l'association Hamster, le professeur Pascal Leprin. Ah, un mot sur la Foire du Trône, Karine. Bon, il y a évidemment tous les manèges, c'est tous les jours, tous les soirs, jusqu'au 2 juin. Il y a des soirées un peu spéciales cette année?
Alors, il y a des journées justement de nouveautés cette année. C'est la journée chinoise qui sera le 12 mai.
Oui.
Vous pouvez nous retrouver sur le site officiel de la Foire du Trône, Twitter et Facebook, avec tous les renseignements.
Bon, ben voilà, tout
et
simplement.
Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez, on vous répondra.
Pas de problème. Merci Karine. Parlons du cœur, puisque ces deux associations s'occupent de former, de développer, de continuer à faire que l'information entre les grands chirurgiens, les grands professeurs, les chercheurs aille plus vite, évidemment. Et puis évidemment, on parle du cœur parce que la transplantation cardiaque, c'est quelque chose aujourd'hui, on va dire, d'assez courant, d'assez au point, mais il n'y a pas que ça. Pour avoir un cœur en forme, avant de penser à tout ça, je fais quoi? Je supprime quoi? Et je fais quoi en plus, professeur Leprince?
Un, je supprime le tabac.
Ah bah d'accord,
ça, c'est fait. Ça doit être réglé, c'est réglé, vous jetez dans la poubelle et on n'en parle plus.
Très bien.
Après, on vit bien. Bien vivre, ça veut dire se faire plaisir, autrement ça sert strictement à rien. Donc se faire plaisir, mais sans excès, sans abus. C'est vrai d'ailleurs pour la nourriture, c'est vrai aussi pour le sport. Le sport à très haut niveau, on sait que c'est un peu dangereux et on voit bien, nos athlètes souffrent.
Ouais.
Nous, on ne sommes pas des athlètes, donc le sport c'est pareil, c'est pour se faire plaisir. Et par contre, c'est si possible toutes les semaines et si possible tous les jours.
De la marche, du vélo, un petit peu de...
Voilà, de la marche, du vélo, de la course à pied, de la natation, peu importe le sport, mais que ce soit du sport pour du sport. C'est pas je vais en marchant pour travailler, ça c'est pas du sport. C'est bien, mais ce n'est pas du sport. Le sport, c'est aussi le message que le cerveau envoie au corps au moment où on fait du sport. Donc c'est vraiment d'activité physique.
Et pour avoir un cœur en pleine forme, en termes d'alimentation, j'ai des choses à supprimer?
Oh, toutes les cochonneries, il faut se faire plaisir.
Je sais.
Voilà,
bien,
mais si on se fait plaisir, c'est bon, en sachant qu'il faut se faire plaisir avec des bonnes choses et pas avec boire du soda tous les jours ou aller chez McDo tous les jours. Ça, clairement, c'est pas bon.
Bah, oui.
On le sait bien. Mais une fois de temps en temps, c'est pas mauvais non plus. Parce qu'on se fait plaisir.
Évidemment. Comment la chirurgie cardiaque évolue-t-elle? Puisque de plus en plus, il existe une panoplie, je crois, de techniques efficaces, non chirurgicales, pour traiter les pathologies cardiaques comme, et cardiovasculaires, comme par exemple les stents, vous savez, si je vulgarise, des petits ressorts qui permettent de déboucher les tuyaux. Comment ça évolue? C'est ça l'avenir?
L'avenir, c'est déjà aujourd'hui, c'est un travail conjoint entre ce qu'on appelle les cardiologues interventionnels et les chirurgiens cardiaques. Pendant des années, des décennies même, on a eu les chirurgiens cardiaques d'un côté qui prenaient pour leur cuisine et puis les cardiologues interventionnels qui prenaient pour leur cuisine aussi. Ça marche pas, ça fait pas de la bonne médecine. C'est tous ces gens-là ensemble, dans un même bâtiment, c'est pour ça qu'on a l'Institut de cardiologie, mais avec aussi des anesthésistes, avec des réanimateurs, avec des électrophysiologistes, les gens qui s'occupent de l'électricité du cœur, c'est important, comme les diurètes, hein, l'électricité, c'est important aussi. Et donc tous ces gens-là travaillent tous les jours ensemble, se rencontrent tous les jours, discutent des différents dossiers des patients ensemble. Et c'est comme ça qu'on va choisir quel est le meilleur traitement pour aller mettre un stent ou faire des pontages, par exemple. Parce qu'il y a de la littérature qui montre ce qui est le mieux actuellement. On sait à peu près quels patients sont les meilleurs candidats pour l'un ou pour l'autre. Même chose pour les valves. On peut remplacer les valves, notamment la valve aortique, en faisant une chirurgie qui se fait vraiment de façon très mini-invasive. On fait que le bas du sternum actuellement. Ou alors, par ce qu'on appelle par voie percutanée, ce qu'on appelle le TAVI, T-A-V-I, on va remplacer sans ouvrir le thorax. Mais là encore, il y a des bons candidats pour l'un, des bons candidats pour l'autre. Il faut avoir accès aux deux. Sinon, connaissant un peu les dérives de l'être humain, si on n'a accès qu'à l'un, on ne fera que celui que l'on a.
Et dans l'avenir, pas proche, mais très 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 lointain, est-ce que le cœur artificiel, c'est aussi un but?
Oui, c'est pas un but en soi, mais en tout cas, ça fait partie des recherches. Vous avez suivi toute l'épopée Karmat qui continue. Hein, il y a eu des implantations au Kazakhstan, des implantations en Tchéquie aussi. On va revenir en France aussi à Karmat. On en a un ancien, un cœur artificiel, qui avait été utilisé par Cabrol, qui est le Jarvik 7. On l'utilise, et d'ailleurs, dans les projets Hamster à Dakar, on a une subvention pour développer un moteur plus petit, avec un meilleur rendement et silencieux surtout pour ce cœur artificiel Jarvik 7. Ça fait partie de des procédures de recherche actuelles.
Pour en savoir plus, il y a un site, adicar.org. Pour vous soutenir également, il y a un site, adicar.org. Hamster, je crois aussi, c'est lié.
C'est le site du service, en fait, de la chirurgie cardiaque Pitié-Salpêtrière, en fait.
Voilà, ben on se donne donc rendez-vous le 5 avril dès 18h jusqu'à 20h30 à la Foire du Trône pour bien sûr passer un bon moment entre amis, en famille, et bref, pour partager une barbe à papa chez Karine, un grand 8, etc. Mais surtout pour soutenir ces deux associations, Adicar et Hamster, choisies cette année par les forains solidaires à qui l'on souhaite aussi de pouvoir continuer leur vie, leur travail, là où ils le font depuis toujours, pour le plus grand bonheur des petits et des grands que nous sommes. Merci à la présidente des forains de la Foire du Trône, Karine Mailleux, et merci
d'avoir été invitée.
Mais je vous en prie, Karine, quand vous voulez. Et merci au président de l'association Hamster, professeur Pascal Leprince. Merci d'être passé
merci
par ici aujourd'hui. À tous les deux.
France Bleu Paris. France Bleu.